you. I wanna be loved by you alone. Pou-pou-pi-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Adiciat, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page, comme, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Oui, excusez-moi, je bafouille. Le matin, des fois, c'est difficile. Donc, je vous disais, on se retrouve comme chaque jeudi de 9h30 à 10h pour une demi-heure donc d'infos autour du livre et puis une présentation de deux livres et également une lecture d'un livre que j'ai lu d'une seule traite qui m'a beaucoup plu et que j'avais envie de vous faire partager. Donc, dans un premier temps, je vous donne quelques infos. Au Salon Priva, ce soir, jeudi 6 avril à 18h, une rencontre débat avec Christophe André pour son dernier livre « Imparfait, libre et heureux », publié aux éditions Odile Jacob. Alors, agir sans craindre ni l'échec ni le jugement, construire son estime de soi, la réparer, la protéger. En plusieurs chapitres, l'auteur réussit un véritable manuel du savoir-vivre avec soi-même. C'est un médecin psychiatre et il a déjà écrit d'autres livres tels que Psychologie de la peur, Vivre heureux, La force des émotions. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur vous-même et sur ce livre, donc venez ce soir au Salon Priva, 14 rue des Arts, à 18h pour rencontrer cet auteur. Ensuite, au Salon Priva, toujours pour mardi prochain, le 11 avril, à 18h également, toujours 14 rue des Arts, une rencontre débat avec Catherine Pancol pour son dernier roman « Les yeux jaunes des crocodiles » paru aux éditions Albin Michel. Henriette Grosde était, comme beaucoup de gens, détestable avec ses proches, aimable avec le premier venu. Henriette est donc un de ces nombreux personnages qu'affectionne Catherine Pancol pour le plus grand plaisir de ses lecteurs, page pleine de vie, pleine d'hommes et de femmes, rattrapés par leurs rêves, un livre romanesque et plein de fougue à venir découvrir mardi prochain, donc le 11 avril à 18h, au Salon Priva à 14 rue des Arts. Ensuite, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, décidément, ce matin, c'est difficile. Le Salon des littératures francophones à Balma pour les 7, 8 et 9 avril, c'est ce week-end donc. Plusieurs pays représentés, la France, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Cambodge, la République populaire du Congo, la Côte d'Ivoire, les Comores. Donc plus de 50 auteurs, des tables rondes, des rencontres d'auteurs, des animations, des libraires, des éditeurs, des ateliers pour enfants mais aussi pour adultes, des spectacles. Et c'est à la salle polyvalente de Balma qui se situe avenue des Arènes. Je vais vous donner un numéro de téléphone, l'entrée est libre, donc c'est pour le 7, 8 et 9 avril. Le numéro de téléphone pour tout renseignement, 05 61 24 92 74, 05 61 24 92 74. Et vous pouvez y rencontrer du côté français, comme je vous l'avais dit également la semaine dernière, des auteurs tels que Alain Monnier, que l'on connaît déjà, Marie Mélisou, Isabelle Desesquelles, Pascal Dessin, Jean-Paul Dubois, Henri Ortebise, Jean-Jacques Rouge, tous ces auteurs de notre région toulousaine seront présents donc à Balma ce week-end. Ensuite, je continue avec l'annonce du café de philosophie, comme tous les jeudis. Donc, le deuxième jeudi de chaque mois, le sujet est défini. Donc, c'est pour jeudi 13 avril, jeudi prochain, à partir de 19h30, fin de débat vers 21h30, au café de l'Esquille, 63 rue du Thor. Donc, le sujet donc de jeudi prochain, c'est « Le travail est-il liberté ?» ou servitude. Alors, à l'Antiquité, le labeur était activité d'esclaves, tandis que le loisir était celle d'hommes libres. Au temps moderne, le puritanisme fait du travail une vertu. À l'époque contemporaine, il devient libération, tandis que le chômage serait déchéance. Aujourd'hui, quel sens donner à cette corrélation ambivalente ? Donc, si vous avez envie de venir disserter sur ce sujet fort intéressant, vous venez au Café de l'Esquille, 63 rue du Thor, jeudi prochain, le 13 avril, à partir de 19h30. L'entrée est libre et gratuite. Les consommations sont au prix habituel. Voilà. Ensuite, je vous donne la petite info toujours de Waïd Diban, qui sera à la librairie de la Renaissance 1 Allée Marc Saint-Saëns jeudi prochain également, donc le 13 avril à 20h30, pour vous présenter sa pièce de théâtre Des ponts à la place des murs, et puis également vous faire un petit mini-concert de son album, donc Des ponts à la place des murs également, et puis la diffusion de ses 3 clips vidéo, et donc il vous lira des extraits de sa pièce de théâtre. Je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement, 05 61 62 79 50, 05 61 62 79 50, à propos donc de son groupe Cercle Fermé, que vous pouvez donc venir découvrir jeudi prochain à la librairie de la Renaissance. Je vous rappelle également que Waïd Diban sera avec son groupe, donc Cercle Fermé. Il se produira au Havana Café en première partie du groupe Noyau Dur, la veille, le mercredi 12 avril à 20h30. Et puis je terminerai cette petite page d'info par les marchands d'histoire, toujours en route vers les bibliothèques de Toulouse, mais ça s'achève d'ici un mois. Donc là, ce sont les dernières haltes à ne pas manquer, notamment mercredi 26 avril, je vous rappellerai la date d'ici là, mais je préfère vous l'annoncer dès maintenant, mercredi 26 avril à 15h, ça sera à la médiathèque José Cabanis, donc en bas au pôle jeunesse. Et ça sera Anne-Marie Lopez qui vous contera une nouvelle histoire où un objet en cuir sera à découvrir pour ajouter à toute la collection. Et donc cette marche s'achèvera fin mai, donc ne manquez pas une de ces dernières rencontres, donc mercredi 26 avril. Je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement, 05 62 27 64 91, 05 62 27 64 91, en sachant que la durée donc de cette histoire, c'est environ une heure, que le public, c'est les enfants de plus de 7 ans, donc n'amenez pas vos petits bouts de choux, ils s'ennuieraient. Et voilà, donc c'était pour terminer. Oui, et pour la médiathèque, je vous rappelle toujours, tous les mercredis, l'heure du conte, à 11h pour les petits, de 2 à 4 ans, et à 15h pour les plus grands, à partir de 5 ans, et l'accès est libre et sans inscription.
Page à page, Claire Ambille.
Voilà, maintenant je vais vous présenter donc deux livres que j'ai envie de vous faire partager. Je vous en lirai un donc dans un prochain temps. Là pour l'instant, c'est un livre qui est édité aux éditions Sud-Ouest, qui s'appelle Randonnée vers les lacs et sommets des Pyrénées. J'avais envie de vous le présenter maintenant parce que l'approche des beaux jours, si vous avez envie d'aller vous balader du côté des Pyrénées, ce petit guide qui est très facile à mettre dans son sac ou dans sa poche pour aller se balader. Il est vraiment très très pratique et surtout il regorge donc d'itinéraires, 168 pages avec des cartes, des photos, des explications, avec des itinéraires, donc 47 destinations du Béarn à la Catalogne du Sud, avec à la fois donc itinéraires pour aller voir un des nombreux lacs des Pyrénées, avec également doublé d'un itinéraire pour aller sur un sommet donc pyrénéen. Donc c'est vraiment un petit guide très très sympa à l'approche des beaux jours. Si vous avez envie d'aller faire un week-end rando, je vous le conseille fortement. C'est Randonnée vers les lacs et sommets des Pyrénées, donc aux éditions Sud-Ouest. Voilà. Et puis également aux éditions Sud-Ouest, un livre sur Barbazan. Alors le titre exact, c'est « Moi, chevalier de Barbazan » et c'est écrit par Jean-Paul Franz. C'est un livre, donc comme je le disais, publié aux éditions Sud-Ouest. Ce livre de 208 pages, c'est un bon livre, retrace l'histoire de ce chevalier gascon, Barbazan. Alors avec lui, nous pénétrons dans cette fin de Moyen-Âge violente, cruelle, mais pleine de vitalité et d'une foi qui surprend encore aujourd'hui. Ce chevalier est un homme de son temps, sans sans pitié, sans scrupule. Il fait la guerre, et il n'a guère de sentiment lorsqu'il s'agit de tuer l'infidèle ou le manant révolté. Il meurt au combat à 71 ans, et oui, et le roi Charles VII le fit inhumer à Saint-Denis, près de son tombeau. Bel hommage donc pour ce chevalier, connu sous le titre de « Chevalier sans reproche ». Donc l'auteur de ce livre, donc, c'est Jean-Paul Franz. Il est docteur en histoire. Il habite non loin du château du Chevalier, d'ailleurs, dont il nous conte les exploits. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, « Le mouvement ouvrier dans les Hautes-Pyrénées » ou « Gaston Manant, le Haut-Pyrénéen qui a dit non ». C'est une biographie. Et avec ce livre, donc, il s'essaye aujourd'hui à la chronique historique. Donc un très beau livre, très intéressant, que je vous recommande, donc « Moi, chevalier de Barbazan » par Jean-Paul Franz aux éditions Sud-Ouest. On va se retrouver après une petite pause musicale avant que je vous lise le livre qui m'a énormément plu là ces derniers jours. Et nous revoici donc dans votre émission Page à Page après ce superbe morceau de U2, toujours actuel, toujours bien prenant. Et puis je voulais simplement, avant donc de commencer la lecture du livre que j'ai beaucoup aimé, vous rappeler que les émissions de Page à Page sont, vous pouvez les écouter sur le site de l'émission qui est Page à Page Toulouse, tout ça attaché sans accent et au singulier, .free.fr, Page à Page Toulouse, .free.fr. Et vous pouvez maintenant également les télécharger, il y a un lien exprès, donc comme ça vous pouvez garder donc les émissions qui vous plaisent davantage que d'autres, ou si vous avez été invité, donc pouvoir les garder. Et puis je voulais aussi vous signaler que la semaine prochaine, jeudi 13 avril, je recevrai Greg Lamazère, qui est connu bien sûr pour son travail à TLT de journaliste, mais moi je l'invite en tant qu'écrivain, puisqu'il vient de sortir son 8e livre qui s'appelle L'Arc des Soviets, et donc il viendra nous en parler ici à Page à Page. Voilà, c'était pour vous annoncer ceci avant de vous lire un passage du livre, vous présenter déjà le livre que j'ai beaucoup aimé. Donc l'auteur, c'est Marie-Sophie Vermot, elle a écrit plusieurs livres, dont notamment Le temps d'une averse, qui est un livre qu'on peut dire qui est pour les jeunes également, jeunes adolescents, enfin les adolescents, mais aussi pour les adultes, hein, puisque bon, moi je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, qui est aussi destiné pour les adolescents, ça parle de la différence. Et je trouve que c'est très, voilà, c'est un sujet qui est toujours actuel et qui est bien écrit. Le style est simple, ça se lit. Moi, je l'ai lu d'une seule traite. Donc, je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est l'histoire de Rose, qui est une jeune adolescente de 13 ans. Et ce sont les vacances. Et donc, elle va être, sa mère doit faire un stage de musique. Et elle l'envoie, c'était pas prévu. Donc, elle l'envoie passer ses vacances, donc 3 semaines de vacances, dans une île en Bretagne, chez une dame qui s'appelle Angèle. Et qui a une fille à peu près du même âge que Rose, on suppose, hein, une adolescente, mais qui est une adolescente, comme on dit, qui est un peu attardée, quoi. Ça, c'est le terme qu'emploie, vous savez, les personnes en général, quoi. Donc, Rose, ça ne l'amuse pas du tout d'aller passer 3 semaines de vacances dans une île avec donc la maman de cette adolescente qui n'est pas comme tout le monde, qui s'appelle Léa, et donc elle y va vraiment à reculons, et forcément au départ ça ne se passe pas très bien, évidemment, hein, parce qu'elle n'a pas du tout envie de s'impliquer, d'essayer de connaître cette jeune fille. Et puis on s'aperçoit au fil du temps que elle s'y attache, et puis elle se rend compte que Léa n'est pas fort différente des autres, hein, malgré là une première approche un peu difficile, mais que elle comprend tout ce qu'on lui dit, et que elle a une grande sensibilité. Et puis je vous raconte quand même l'histoire en entier, mais enfin, il faut le lire, hein, le livre. À la fin, elle n'a plus envie de repartir de l'île, elle a envie d'y rester, et Léa est sa meilleure amie, quoi. Donc, c'est vraiment un très, très beau livre qui parle de la différence, qui parle de tout ça, et je trouve que c'est, à l'heure actuelle, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant et qu'il ne faut pas oublier ce genre de valeurs. Donc, je vais vous en lire un passage. Je vais vous lire le chapitre 2. Quand elle est arrivée donc sur l'île, donc Rose est arrivée sur l'île. Assise devant la table, Rose boit une tasse de thé. Angèle et Léa s'affairent dans la préparation d'une tarte aux framboises. La farine, dit Angèle. Elle pose le sac sur la table. Rose, Léa répète. Les œufs, sa mère continue. Tranquille. Œufs. Le beurre, beurre. Rose regarde droit devant elle, par la fenêtre. La couleur impassible de l'horizon, veinée de gris, a assemblé ses résolutions de la veille. Elle a bien dormi dans la petite chambre, là-haut, apaisée qu'elle était. Les gestes d'Angèle, empreints de douceur, de sérénité, l'ont amenée à espérer que son séjour ne serait peut-être pas si désagréable. Ce matin, un fin crachin tombe au dehors, et malgré la lampe allumée, la cuisine baigne dans une atmosphère opaque. « Répète maintenant !» Angèle attend, les poings sur les hanches. « Rin, ze, beurre !» Léa articule en touchant chacun des ingrédients. « Bien, on y va !» Angèle n'a pas un regard pour Rose. Concentrée, elle prépare le terrain. Léa se met à patouiller avec ardeur. Pendant un moment, on n'entend plus que le chointement de la pâte façonnée. Rose ne peut détacher son attention des mains puissantes de Léa, entachées de lambeaux gluants. Angèle a cessé d'intervenir. Elle se contente maintenant de suivre l'élaboration du dessert. Dans le silence de la cuisine, la voix rauque de Léa psalmodie en cadence. Rin, ze, beurre. Rose laisse ce chant étrange la frôler. Sur le point de se lever pour sortir, elle surprend l'expression interrogative d'Angèle. Donc Angèle, c'est la maman donc, de la jeune fille donc, qui s'appelle Léa, et Rose, donc, c'est la citadine venue en vacances en Bretagne. « Veux-tu aller cueillir des framboises avec Léa pendant que je fais dorer la pâte ?»« Oui. » Rose rince son bol et le pose sur l'évier. Léa est déjà sur le seuil. « Toi, Léa !» elle crie avec un bonheur évident. Rose la rejoint en s'efforçant de dissimuler sa contrariété. Au moment de sortir dans le jardin, Angèle la retient par la manche de son chandail. « Parle-lui normalement, comme tu le feras avec moi, s'il te plaît. » Mais elle comprend tout. Dehors, il ne pleut plus. Léa a déjà commencé la cueillette. Un large sourire éclaire sa face de lune. « Toi, Léa !» elle frappe sa main pleine de jus de framboise contre sa robe. Rose regarde fixement le jus dégouliné entre les doigts boudinés de la grosse fille. « Toi, Léa !» elle dit encore, Léa en étalant davantage de jus. « Oui, toi, Léa, et moi, Rose. Et écoute ça, moi, c'est que toi comprends tout, ok ?»« Toi, Léa !» elle poursuit Léa en écrasant de nouvelles baies sur sa robe. « Bon sang, mais t'es complètement givrée, ma parole. Hein ? Dis-le, t'es cinglée ou quoi ?» « Ou quoi ? Ou quoi ?» elle ricane Léa de sa voix rauque. Rose laisse tomber ses bras le long de son corps, et alors qu'un rire gras pareil à un grincement monte dans la gorge de Léa, elle ramène ses mains contre ses oreilles et elle démarre comme une flèche à l'opposé de l'enclos. Elle franchit les pilastres d'un bond et se met à courir sur le sentier. Elle va jusqu'aux falaises sans s'arrêter et là, haletante, elle trouve encore la force de lâcher un cri puissant qui tombe dans le vide comme un jet hostile chargé de tant de haine. Une petite voix s'élève. « Ça va pas, non, de crier comme ça ?» Un peu étourdie, Rose se penche et découvre en contrebas, dans les rochers, un gamin brun en train de pêcher. Il se considère pendant quelques minutes, en silence, puis comme à regret, le gamin replie son matériel et entreprend l'ascension des rochers. Rose le laisse venir, elle ne bouge pas. Sa peau tressaille et se hérisse sous la morsure du vent. « Qu'est-ce qui t'a pris de hurler comme ça ?» il demande le gosse. Rose le regarde curieusement. 8 ans, pas plus. Un chapelet de cheveux serrés d'un noir profond et des yeux mentalos qui dansent drôlement derrière de petites lunettes rondes. Marrant, pas impressionné du tout. « Alors ?» Rien, elle dit. Et encore, j'étais en colère. « Ah, tu cries souvent comme ça ?» En fait, ça m'arrive rarement, mais bon, tu ne vas pas m'en faire un plat. Comment tu t'appelles ? Rose. Comme la fleur ? Ouais. Et toi ? Thomas. Tu peux dire Tom. Je suis en vacances chez ma grand-mère. C'est géant ici. Il y a des bancs de poissons formidables. Ah ? T'aimes la pêche ? J'en sais rien. J'ai jamais essayé. Je te montrerai si tu veux. T'es chez ta grand-mère ? Non, chez Angèle. Ah ouais, elle est bizarre sa fille, hein ? Plutôt. « T'as quel âge ?» il demande encore. « 13 ans, et toi ?»« 10. »« Et ne me dis pas que je suis petit pour mon âge, je le sais. »« J'ai rien dit. »« Alors c'est d'accord pour demain ? Tu viendras pêcher ?»« J'essaierai. »« T'es calmée ?»« Oui, je crois que je vais rentrer maintenant. » Elle lui accorde un sourire, puis elle tourne les talons. Elle refait le parcours, beaucoup plus calmement qu'à l'aller, avec toutefois l'intuition que son apaisement repose sur un principe éphémère. Lorsque Léa surgira, de nouveau le malaise reprendra sa place et Rose sait très bien qu'elle ne sera plus maîtresse de son exaspération. Alors je vais vous lire un autre chapitre. Donc là, elle fait connaissance d'un petit garçon qui est lui aussi en vacances sur cette île. et qui est en vacances chez sa grand-mère. Et donc, ils vont former un petit trio, donc tous les trois, à faire un tas de jeux et tout ça. Et c'est comme ça que, bon, Léa va se... Enfin, que Rose va s'acclimater, va apprivoiser Léa, finalement. Et donc, je vais vous lire un chapitre... le chapitre numéro 6, par exemple. Maintenant, ils sont trois. Rose ne comprend pas le désir d'Angèle de protéger sa fille en l'écartant des gens. Ça rime à quoi de vivre en marge du monde? Ce qu'il faudrait, c'est lui faire confiance à Léa, lui tendre la main et la lâcher tout doucement, l'aider à grandir dans sa tête, en quelque sorte. Pour entrer dans le jeu, Rose s'imagine que Léa a 13 ans. Avec un léger retard de langage, ça peut arriver. Bon, pas de quoi en faire un drame. Ce qui est difficile avec cette façon de considérer Léa comme si elle avait son âge, c'est de faire abstraction de son corps, de sa lourdeur, de ses formes féminines très marquées. De tout ce qui fait que, à première vue, on la prend vraiment pour une débile. Rose se dit que ça va venir, la spontanéité, forcément. Un matin, elle ne prêtera plus attention à ses détails physiques. Et comme cette idée fait son chemin, s'y ajoute la certitude que, au fond, ça ne doit pas être aussi compliqué qu'elle le craint. Tom y arrive bien, lui. Il connaît Léa depuis plus longtemps, sans doute, que ça l'aide. En tout cas, Rose envie son naturel. Léa, bon sang, tu veux qu'elle s'éboule pour de bon, la falaise ? Tu peux pas te pousser ? C'est pas possible d'être aussi grosse. Elle rit, Léa. On pourrait croire qu'elle ne comprend pas un traître mot, mais c'est faux. Rose le sent bien que c'est faux. Depuis qu'ils sont tous les trois, un voile se déchire dans le regard de son amie. Ses yeux ne sont plus glauques. Ça la réconforte de constater ça. Elle voudrait raconter à sa mère l'histoire de cette amitié. Le soir, elle s'assoit dans son lit avec un bloc et un stylo. Elle réfléchit. Elle ne sait pas comment démarrer. Elle s'aperçoit qu'elle ne trouve pas les mots. C'est difficile. Elle a peur que sa mère ne comprenne pas, comme elle, Rose, n'a pas su comprendre Léa au début. Et aussi, Rose considère que s'occuper de Léa, l'éveiller, la rendre plus accessible, tout ça lui est personnel. C'est elle qui a décidé de prendre Léa en charge. C'est son choix. Ça ne regarde pas les adultes. Encore moins sa mère que quiconque, d'ailleurs. Après tout, elle a voulu se débarrasser de Rose sans se soucier de ce que sa fille trouverait à dire ou à faire avec Léa. Maintenant que Rose éprouve de l'intérêt pour Léa, pire, de l'attachement, autant dire les choses comme elles sont. Pourquoi sa mère devrait-elle émettre un avis sur cette amitié ? Parce qu'elle émettra un avis, forcément. Les mères sont comme ça. Rose ne veut pas de cet avis. Elle s'en fiche complètement. Sa vie n'intéresse personne, elle décide. Alors elle renonce à écrire ce qu'il y a au fond de son cœur, c'est plus simple. Et puis elle n'a toujours pas éclairci le mystère de l'homme imaginaire. Quel besoin subit a eu sa mère de s'en aller faire de la musique en solitaire? Enfin, en solitaire, c'est beaucoup dire, sans Rose en tout cas. Et s'il existait ce fichu mâle? Et si sa mère décidait de le ramener à la maison, à la rentrée? Et s'il n'aimait pas Rose? Pire, que Rose le déteste? Plus vraisemblable d'ailleurs, elle le hait déjà à coup de supposition. Bon, pas de panique, elle se dit, Rose. Chaque chose en son temps. Les jours passent très vite, les enfants explorent l'île, ils jouent aux premiers hommes, le jeu préféré de Tom qui s'y connaît particulièrement bien en préhistoire. Léa les suit. Voilà, et ça continue ainsi, donc, ce livre, je vous rappelle le titre, « Le temps d'une averse » de Marie-Sophie Vermeaux. Je l'ai moi-même emprunté donc à la médiathèque, mais enfin, il est dans toutes les bibliothèques et dans tous les magasins de livres également. C'est un livre vraiment très très agréable à lire, qui est très court, hein, qui n'est pas un gros pavé, hein, donc ça se lit très facilement pour vos adolescents, pour vous-même, pour passer un bon moment. C'est émouvant également, je veux dire, mais c'est pas pathos du tout. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère que l'extrait que je vous ai lu vous aura donné envie de le parcourir. Donc je vous rappelle, je vous dis la semaine prochaine. Ainsi s'achève donc votre émission pour aujourd'hui. À page. Je vous dis bonne semaine à tous, à jeudi prochain en compagnie de Greg Lamazère pour l'Arc des Soviets. Adiciats à tous.